présente Philippe Curval, Jacques Barbéry, Stéphane Beauverger a oublié de venir. Et je suis Mathias Echenet, je suis fondateur de La Volte. Voilà. Donc je ne serai pas
modérateur, il faut poser des questions par les, le public.
Voilà. Comment on va faire ? Ce que je vous propose, c'est de commencer par une très rapide histoire de La Volte. Donc on pourra parler après, on pourra poser des questions sur le fonctionnement éventuellement. Mais ce que je voudrais, parce que c'est très agréable de raconter l'histoire de La Volte et j'espère de l'entendre, mais ce qui compte, parce que c'est quand même l'essentiel, et vraiment l'essentiel, c'est de parler des livres, et de parler des textes, et de parler, d'écouter les auteurs, voilà, parlons littérature. Donc très rapidement, pour La Volte, on a créé la maison d'édition il y a 10 ans. Ça s'est marqué partout. La question de la date anniversaire importe peu, on va dire que c'est l'année où on a commencé par publier L'art du contrevent d'Alain Damasio. Et donc si on veut vraiment une date anniversaire, ce serait le 23 octobre 2004, date de la parution de L'art du contrevent. Pour l'histoire juste avant, alors c'est assez drôle quand on fait ça avec Alain Damasio parce qu'on a un numéro bien rodé, mais on crée toujours quelque chose, c'est comment ça a commencé, et c'est vrai que c'est une belle histoire, donc je vais quand même vous la narrer, moi ça me fait plaisir. C'est que je travaillais déjà dans l'édition, au service des éditeurs, dans le domaine commercial, et lors d'une soirée, il y a très longtemps, j'ai un type qui est venu me parler de philosophie, et il avait un manuscrit. Il voulait absolument que je lise. Moi j'étais prêt à le faire passer, mais je disais mon avis importe peu, mais il voulait vraiment que je lise, et je l'ai lu, et c'était La Zone du Dehors. J'ai effectivement trouvé ça incroyable. J'ai découvert que c'était un roman, ce qu'il ne m'avait pas dit, et un roman d'anticipation, pour dire ça comme ça, 2084, si on doit résumer ça vraiment à gros traits. Et j'ai cherché, comme je connaissais, je travaille avec beaucoup d'éditeurs, j'ai cherché, c'est une histoire vraie, donc j'ai cherché beaucoup d'éditeurs. J'ai contacté beaucoup d'éditeurs et ils l'ont tous refusé. J'ai trouvé chez un ami qui avait une maison d'édition qui faisait de l'impression numérique et qui vendait par internet. Et la maison d'édition s'appelait Silibris. Et avec Olivier, le fondateur de Silibris, nous avons édité La Zone du Dehors. Alors j'allais dire de façon confidentielle, oui et non, enfin ça s'est vendu correctement. Et Silibris d'ailleurs a disparu. Mais ils ont fait plutôt du porno gay après, donc c'était pas le même genre. Et quand Alain, qui met 7 ans peut-être à écrire un livre, peut-être plus pour le prochain, je le dis tout de suite, on s'est dit il lui faut un vrai éditeur pour le cadrer, parce qu'il a quand même, des ambitions énormes, il faudrait vraiment que quelqu'un le cadre. Et puis moi je voulais que sa zone du dehors passe en poche. J'ai lu, moi je travaillais à ce moment-là chez Flammarion, pour tout dire, et je discutais avec Jacques Chambon. Donc régulièrement on se retrouvera à parler de Jacques Chambon, parce qu'on croise sa piste à plein d'endroits, n'est-ce pas, toi, tous les deux, qui était à ce moment-là, on y reviendra, éditeur chez Flammarion, et quelqu'un qui a compté beaucoup, qui est mort, et qui a beaucoup compté dans la science-fiction. Et Jacques Chambon a accepté le projet, puisque ce n'était pas vraiment écrit, de La Horde du Contrevent. Il y croyait beaucoup. Ils ont commencé à se chamailler, parce que quand même... un type qui veut écrire un livre avec 23 narrateurs, et on ne sait pas toujours qui parle, 23 narrateurs, c'était quand même un peu fou. En tout cas, ils n'ont pas pu aller plus loin, parce que Jacques Chambon est mort. À partir de là, Alain Damasio m'a convaincu, lors d'une soirée mémorable, m'a convaincu de créer une maison d'édition. Voilà, donc c'est la vraie histoire. Et j'ai créé une maison d'édition avec des amis, au début pour L'art du contrevent, et ensuite pour des livres que moi en tant que lecteur, je ne me considère pas comme un spécialiste, moi en tant que lecteur je ne trouvais plus vraiment dans ce qui était proposé chez les éditeurs il y a 10 ans. Si je dois si je dois résumer vraiment très rapidement, je dirais que mon goût à moi, je trouvais plutôt chez les bouquinistes éventuellement les présences du futur des années 90. 80, 90. D'accord? Vous voyez à peu près? 80 pour certains, d'accord. Et donc, il n'y avait plus. Donc ça, c'était mon goût. Bon, on a lancé l'art du contrevent et je pensais pas... Enfin, moi, je pense toujours que c'est un livre très important. Je pensais pas que ce serait un succès tel que c'est devenu. Et puis, il y a beaucoup de faits qui se sont penchés aussi. Il suffit pas. En tout cas, comme quoi un livre... trouve son chemin, mais celui-là, il y a eu beaucoup de faits qui s'étaient penchés sur son berceau, je ne vais pas vous faire une liste des gens que je remercierais, mais je pensais que, puisqu'on est dans une convention de l'imaginaire, moi je pensais en tant que fan et lecteur, que les gens du milieu, en fait personne ne sait ce que c'est que ce milieu, que les gens du milieu se disputeraient pour savoir si c'était de la science-fiction ou de la fantasy, ou de la... voilà. Et en fait, c'est très positif. Il n'y a pas du tout eu des petites guéguerres ou ces petites discussions. On s'en fout, exactement. Mais les autres aussi, c'est qu'à un moment, il y a des critiques, il y a des auteurs, il y a des gens qui ont adoré ce livre et qui l'ont fait savoir. Et il y a eu un bouche à oreille très très fort et c'est devenu un best-seller. Ça s'appelle un best-seller. C'est devenu un best-seller, surtout en poche, hein, c'est normal. Mais c'est vraiment une très très grosse vente. C'est génial. Et là, je croisais qui est au salon Jacques Baudou, par exemple, qui était à cette époque journaliste. C'est parmi les faits qui sont penchés sur le berceau. C'est juste pour vous raconter une petite histoire de l'édition. C'est sorti en octobre. En novembre, il y a le festival Utopia à Nantes. Nous, on fait les choses un peu autrement aussi. Hein. On s'amuse et on va au-delà de publier un livre. On avait une salle où on faisait de la musique, puisque avec la Horde du Contrevent, il y a une bande originale de livres. On avait fait une expo avec un illustrateur. Enfin, on s'amusait, et ça se voyait. Et on alpaguait les gens. Et ce week-end-là, dans Le Monde des Livres, du vendredi, il y avait un petit article de Jacques Baudou qui disait « C'est un chef-d'œuvre. » C'est classe. Bon. Et à partir de là, les gens du Grand Prix de l'Imaginaire, les gens qui chroniquent ailleurs, etc., se sont passés le mot. Et évidemment, au début du week-end, personne ne connaissait La Volte et Alain Damasio. Et à la fin du week-end, ils voulaient tous le lire. Et puis voilà, et ça a grandi comme ça. On a accompagné le mouvement, mais l'année d'après, on a trouvé beaucoup d'auteurs même. Ils disaient, j'en ai offert plusieurs. Et ça a grandi chaque année. Bon, voilà pour la belle histoire. Voilà. Est-ce que je peux vous demander de dire qui a lu Damasio parmi vous pour savoir s'il faut. Voilà. Bon, les autres dehors. D'accord. Bon, il y en a là-bas. Il y a les livres. Ouais, les... Non, il y a le grand format, il y a le poche, il y a ces deux vies différentes et c'est normal. Parce qu'en grand format, il coûte très cher en plus. Voilà pour l'histoire de La Volte. Juste très rapidement, on peut se dire c'est formidable, La Volte et tout ça. D'abord, je suis modérateur, je peux le dire au fondateur, mais il faut comprendre que c'est un luxe qu'on se paye. Je prétends pas du tout que... aucune leçon à donner aux éditeurs qui en vivent. Nous, notre principe, c'est qu'il n'y a pas de salariés, on a mis plein d'argent dedans, on ne dit pas ça d'habitude, et on fait ça le week-end, pas toujours, on fait d'autres choses aussi, le week-end et la nuit et les week-ends, et le fait de ne pas avoir de salariés, ça nous permet de dire on n'est pas obligé de publier des livres. Donc c'est vraiment un modèle particulier et c'est pas l'avenir. Enfin, c'est l'avenir de La Volte. Je voudrais pas que ça grandisse. On est libre de nos choix. Il y a une certaine liberté. Ligne éditoriale, on y reparlera. On en reparlera. On a l'impression, après 10 ans, qu'il y a une ligne éditoriale qui commence à se dégager. Mais sinon, je serais incapable de l'écrire. On essaiera. Hein? Mais c'est un goût. Ça se met en science-fiction. Bon, ok. Pour la plupart des bouquins de La Volte, On va dire que y a un rapport très fort à l'écriture, ça c'est clair. Et puis voilà, c'est peut-être 10 ans après qu'on pourra, et dans 10 ans encore, qu'on pourra dire, ah bah oui, c'est ça, mais bon, ce qui compte, c'est les livres. Voilà pour l'histoire de la Volte. Évidemment, on va parler des autres livres, mais je ne vais pas monopoliser la parole, bien que je sois modérateur, j'ai le droit. Je vais passer. Alors, j'ai d'abord publié Jacques, donc d'abord à Jacques. Une question, oui, dans la salle, oui. Décédé. Décédé, absolument. C'était pas de ma faute au début. C'est Alain, il m'a dit, j'ai promis à un type, pour la Horde, j'ai promis à un type qui ferait, parce qu'il a envie de faire une bande originale de livres, de faire de la musique. Donc, on a fait. Et effectivement, on a fait sur... Alors, on est à 42 livres. C'est marqué, en fait, en tout petit dans les livres. Voilà, ça, c'est le dernier. C'est Clameur. C'est des entretiens... avec tous les auteurs français de science-fiction, et c'est des entretiens comme on n'en voit pas sur d'autres supports, parce qu'ils sont, ils sont menés par Richard Combalot, qui a l'habitude d'étrier, de lessiver les auteurs, mais ils sont donc publiés intégralement. On apprend des choses sur la science-fiction, sur les gens, sur l'écriture, enfin. Et donc à l'intérieur, en tout petit, est marqué 42. Donc on a fait 42 livres. A priori, si on ne s'est pas gouré dans les comptes. Et donc... sur les 42, on a dû faire 6 CD, donc accompagnant 6 livres, et c'est très libre, hein, surtout. D'abord, ce qui compte, c'est le texte au départ, et puis c'est qu'il y ait des rencontres entre un musicien et un écrivain, et du coup, ça prend la forme de ce que donne une rencontre. C'est pas du tout un principe de livre CD où vous êtes obligé de, tout en lisant, écouter la musique. Il n'y a pas une petite clochette pour vous dire de tourner la page, hein. Mais quelque part, l'idée, c'est de se dire, il y a un livre qui tient, c'est son univers, voilà. Mais le CD aussi, vous pouvez ne pas avoir lu le livre et écouter un CD, ça peut pas vous plaire, ça, comme la littérature, c'est comme ça, mais l'un plus l'autre, ça fait plus, voilà. Et dans le cas de la bande originale du livre de l'Ordre du Contrevent, quand on a aimé l'univers, on a peut-être envie de continuer de s'y plonger. Il y avait un site à l'époque, mais là, dans la musique, il y a du texte, il y a la voix d'Alain Damasio, il y a des, non pas des clés, mais ça prolonge. Voilà, il y a des échos, voilà, donc on peut s'immerger encore là-dedans. Et du coup, c'est une habile transition pour parler de Narcose.
Donc à moi.
Ouais, c'est toi. Et peut-être que tu voudras parler avant de... Oui, enfin bon. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de Présence du Futur. Moi, j'ai découvert Jacques Barbéry en Présence du Futur. J'avais très envie de faire des choses avec lui. Donc, c'est pas la Volte qui a découvert Jacques Barbéry. Et on s'en fiche. Donc, Jacques va raconter ce qu'on a pu faire. Mais comme Jacques est en plus musicien, à un moment, on a fait Narcose. Il avait déjà publié en tant que livre, et on s'est dit, t'es musicien avec Palo Alto, tu vas illustrer ton univers, ce qui a donné lieu à des soirées mémorables également, et de générer une énergie autour du livre, au service du livre et du texte. Jacques Barbéry, je te cède la parole.
Bon, alors à propos de Narcose, donc j'avais publié en Présence du Futur ce roman, qui était suivi par un autre roman qui s'appelait La mémoire du crime, et puis j'avais l'intention d'en faire une troisième que j'ai jamais écrit. J'ai gardé l'idée, mais bon, c'est resté un petit peu en rade. Et lorsque Mathias m'a demandé de lui faire un roman, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire le troisième volet de Narcose. Mais ce qui m'intéressait à ce moment-là, comme ça faisait une vingtaine d'années que les deux premiers bouquins avaient été publiés et n'étaient plus disponibles, c'était de ressortir la trilogie. Évidemment, c'était un projet un petit peu ambitieux, et Mathias a tout de suite accepté. Il m'a dit oui, pas de problème, je te ressors les trois. Ça, je crois qu'il n'y a que à la Volte que c'est possible, à mon avis.
Je voulais dès le début, ça. Oui, oui.
Oui, je crois que
oui,
là,
oui, c'est bon, normal. C'est... Oui.
Donc, ce qu'il avait commencé à expliquer, c'est que là-bas, il offre la possibilité de faire une bande originale du livre. Bon, étant musicien, c'était pour le coup une occasion inouïe, quoi. Donc, pour moi, c'était l'éclate absolue, quoi. Pouvoir terminer la trilogie et en plus faire un album qui illustrerait musicalement un ensemble. Voilà, donc voilà,
on a fait des débuts à la Volte. On a fait quelques concerts.
qui ont permis de faire quelques concerts, notamment une soirée au bar du lieu unique, qui était vraiment géniale. Pour expliquer le truc, dans le site, il y a un lieu qui s'appelle le Lemnos Club, donc avec où il passe des musiques un petit peu spéciales, cybernétiques, du futur, etc. Et donc c'était de recréer dans le contexte du lieu unique de l'ambiance du Lemnos Club. Donc ça, c'est bon, c'était
ambiance déjantée, bien entendu.
Ambiance déjantée avec les apéritifs. Oui. Ad hoc, etc.
Exact, avec les scotch benzédrine. Ouais, c'est vrai.
Chupa Bombers.
Et il y avait eu avant, avec tous les deux, en fait, il y a eu la rencontre avec, pour Aux Limites du Son.
Oui.
Philippe.
Oui, finalement, moi, je suis venu à la Volte avec Les Limites du Son. Alors, Les Limites du Son, c'est assez extraordinaire parce que finalement, on avait eu le projet à l'époque. Emmanuel Joanne existait encore, de faire un deuxième tome de Limite.
Il faut peut-être expliquer.
Voilà, Limite, c'est vraiment une tentative tout à fait particulière de la science-fiction française pour dépasser les limites de la science-fiction, pour atteindre à une sorte de littérature transcendantale qui ne ressemblerait pas à la science-fiction ordinaire et qui, quand même, serait de la science-fiction, mais qui serait avant tout littéraire. Bon, c'est un projet qui m'a toujours intéressé et il se trouve que. Toute la bande de Volodine, Jacques, Joanne, etc., ont voulu faire un deuxième tome. On s'est réunis je ne sais pas combien de fois, donc tout était prêt, et puis finalement, tout s'est arrêté. Donc quand, par hasard extraordinaire, deux personnages, c'était à Toulouse, je crois, qui s'appellent Maxime Lachaud et Hélène, ont fait pendant des années à Radio Toulouse, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Douche froide, ils ont une émission qui s'appelle Douche froide.
Voilà. Ils lisaient des textes de science-fiction, personne ne savait que ça existait. Et ils ont dû proposer à Mathias de faire un nouveau recueil Limite. Et donc, il était accompagné aussi, évidemment, de musique. Et là, finalement, donc, comme j'étais associé à ce deuxième Limite qui ne s'est pas fait, eh bien, donc, j'ai été associé aux Limites du Son, qui est le deuxième tome Limite. Donc, c'est ce qui m'a permis de rencontrer Mathias, et donc de faire ce premier livre, pas ce premier livre, puisque déjà d'autres étaient parus, mais tout à fait original, dans lequel il y avait une convergence entre la musique, le titre même du livre, et les nouvelles qui les accompagnaient. D'ailleurs, ça nous a donné l'occasion, justement, de faire une séance assez remarquable, je crois, au lieu unique toujours à Nantes, où lors de l'apparition du livre, on a tous, enfin quatre d'entre nous avons fait une performance à propos des nouvelles accompagnées donc de musique. Et je crois que ça a eu énormément de succès. Bon, ça a été certainement un des plus grands succès du livre. Je ne sais pas ce qu'il a donné par la suite, mais enfin, il était absolument réussi la démonstration qu'on pouvait associer la musique et la littérature dans une séance.
Ouais. Et en fait, chaque nouvelle avait été illustrée par un compositeur ou un groupe différent.
Oui, c'est ça.
Ouais, donc,
oui, parfois.
Parfois deux. Ouais. Donc il y a eu Aux Limites du Son. Donc ça a permis à la Volte de capter des auteurs. Et comme ça, Jacques Barbéry et Philippe Curval sont arrivés. Donc avec Jacques, mais oui c'était ça en fait, c'est une soirée où j'ai commencé à t'entreprendre et pour revenir juste comme ça, voilà, pour moi Jacques avait pas cessé d'écrire mais il avait plus d'éditeur parce que son dernier éditeur était Jacques Chambon chez Flammarion et que Jacques Chambon était décédé et c'était pas une panne d'inspiration, c'est juste que...
Oui. Non, c'était pas du tout une panne d'inspiration. Bon, ça m'a fait un petit coup quand même, parce que j'étais assez proche de lui, donc bon, j'ai eu un petit peu de mal à... Voilà. Et puis, bon, faut dire aussi que ce que j'écris est quand même un petit peu particulier. Là, je sais pas si Mathias
peut en dire quelque chose. C'est toi d'en parler.
Un petit peu spécial, et donc, oui, j'ai...
Qu'écris-tu, Jacques Barbéry, alors ?
Ça, j'aurais du mal à le définir. Mais disons que c'est quand même assez particulier. Bon, il y a un petit peu de difficulté à trouver des éditeurs qui sont prêts à publier mes livres et surtout à publier dans le cas de Narcos une trilogie. Quoi. Donc voilà, Mathias qui laisse quand même une très très grande liberté à ses auteurs.
Moi, j'en
avec
fais,
grand plaisir.
Moi j'en fais, mais je le porte. Les, on a fait avec Jacques la trilogie Narcose. On a fait deux recueils de nouvelles.
Oui, là aussi.
Ouais. Deux recueils de nouvelles. Et on vient de publier. Donc c'est toi qui as le plus publié à la Volte.
Ah, c'est possible.
Avec Évangélistine peut-être. Et on a fait là
que
aussi.
Que je traduis.
Oui, que tu traduis. Donc c'est okay. Donc on a fait deux livres qui vont bien ensemble. Il n'y a pas un ordre, mais enfin bon, on a fait Le Crépuscule. Vous les voyez derrière des fois, donc moi je sais pas. Mais on a édité en fin 2013 Le Crépuscule des Chimères, qui était déjà paru
chez Flammarion.
Chez Flammarion par Jacques Chambon.
Voilà. Et il était question que j'en fasse un second, donc pour Jacques. Jacques est mort. Ouais.
Donc on a fait et on a fait la suite.
J'ai fait la suite. Sorte,
Cosmos Factory.
Aussi, ouais. Voilà,
Cosmos on a fait Factory. Cette année Cosmos Factory. Voilà. Donc l'univers de Jacques, il est déjanté. Bon, ça dit rien. Là, beaucoup de gens ont dit que sur le dernier, notamment Cosmos Factory, il y avait un aspect Lovecraftien. Est-ce que tu pourrais, là, je vais faire modérateur.
Oui,
est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi on peut considérer que Lovecraft est très présent dans ce que tu écris, et notamment dans Cosmos Factory.
Lovecraft est présent que dans le Cosmos Factory.
Oui, voilà, dans Cosmos Factory.
En fait, dans Le Crépuscule des Chimères, bon, ça tourne beaucoup autour de trucs mythologiques. Il y a tout un tas de dieux avec des univers enchevêtrés. Et du coup, la mythologie lovecraftienne, avec évidemment Yoxotot, Cthulhu, etc., s'intégrait à merveille dans tout ce foisonnement déjà divin mythologique. Donc, en plus, bon, je pense que Lovecraft est un grand auteur, quoi. Enfin, un petit peu comparable en ce sens à des auteurs comme Dick ou Kafka, ou c'est qu'on peut dire, je crois aujourd'hui, qu'un récit peut être un peu lovecraftien, en fait. Il y a une marque assez forte. Et en tout cas, il m'a assez impressionné ces derniers temps. C'est un auteur que j'ai lu sur le tard. Et voilà, donc je trouvais que le pont entre les deux univers pouvait donner des choses intéressantes. Et c'est ce que j'ai fait dans Cosmos Factory.
Donc, alors j'ai quand même parlé du coup deux secondes devant l'auteur. C'est compliqué, mais enfin, c'est pas compliqué, ça va. D'habitude, ce sont les autres qui en parlent. Moi, j'adore l'univers de Jacques Barbéry. Parce que effectivement, il est vraiment foutraque. Que j'aime bien moi me perdre. Je dis moi. Hein, après, chacun trouve ce qu'il veut dans des lectures. Me perdre dans des univers, ne pas savoir où on est. Dans son univers, ça va très vite. Hein, vous voyez, dans beaucoup d'univers de science-fiction, on dit qu'il faut suspendre son incrédulité, qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas au début, mais qui se développent après. Là, on comprend pas toujours. On comprend que derrière, en revanche, il y a une structure. Réellement, il y a une structure. Il y a des thèmes qui reviennent. Dans Narcose, il y a vraiment les espaces rêvés, des univers enchevêtrés, imbriqués, et on ne sait pas si on est dans la tête de rêveur. Et donc, cette structure, on la sent. Voilà, on n'est pas obligé de la comprendre complètement, mais on la sent. Et en plus, il y a un rythme d'écriture qui est bon, très drôle, parfois trash, pas mal de cul aussi, enfin, ou du désir, enfin, ou voilà, ou de cuisse, on va dire ça comme ça. C'est drôle, ça va vite.
Ça a de la cuisse.
Ça a de la cuisse. Voilà, il y a un côté polar. Il y a pas, voilà, il y a des morts, ça c'est sûr, mais c'est voilà. Et donc c'est comme une grande montée. Il y a pas de grande redescente. Enfin, on a l'impression de le lire. C'est du travail, ça. Après, d'un jet, quoi. Voilà. Et je sais que tu t'intéresses à beaucoup de, même de bon, tu lis beaucoup, mais on s'en fiche après, enfin, de retrouver des références. Ce qui compte, c'est ce qu'on lit sur le moment, même de physique. Enfin, voilà, tu t'aimes beaucoup parler du point de la scission de Rolando.
Oui, c'est vrai, la scission de Rolando.
Ça c'est toi, quoi. Ouais. Mais où il y a quelque chose dans le cerveau qui fait qu'on va basculer dans une autre dimension. Donc c'est à la fois un côté psychique délirant, et en même temps on arrive dans des espaces physiques, voilà, où on est dans des dimensions nouvelles. Voilà pourquoi c'est bien.
Très bien parlé.
C'est bien. Oh là, je peux me dire que c'est dur. Non. Donc moi je trouve ça drôle, voilà, et fou. Ça c'est donc Jacques. On parlera de Stéphane et des autres, moi-même s'il n'est pas là. Philippe, c'est un autre parcours. Philippe, enfin c'est un autre parcours. D'abord, tu n'as pas attendu la vol pour publier, je crois. Tu as déjà publié, tu as bien fait. Tu as publié, tu as publié combien de romans ou de textes?
Ouais, une quarantaine. Voilà.
Et toi aussi, tu as eu un passé. Enfin, non, tu as eu. Si on regarde les éditeurs, il y a eu Gallimard. Enfin, il y a eu beaucoup d'éditeurs. Il y a des classiques. Alors, il y a des classiques de Philippe Turval, Cette chère humanité. Enfin, il y en a plusieurs. En réalité, on ne peut pas dire non plus que tu t'attaches à un genre, parce que tu es allé explorer, mais tu le diras mieux que moi. Tu es allé explorer dans différents thèmes et différents types de littérature. Et effectivement, il n'y avait plus Jacques non plus pour te publier.
Ça, c'est sûr. Bon, la mort de Jacques, évidemment, a été grave ici, puisque finalement, tous les autres étaient morts auparavant, que ce soit Elisabeth Gilles ou d'autres auteurs chez Gallimard d'ailleurs. Bon, et je me suis trouvé dans un état assez difficile. Mais ce n'était pas fondamentalement le problème. Le problème, c'est que depuis toujours, tous mes romans, je les ai proposés chez Gallimard, puisque ça a été mon premier éditeur. Enfin, c'était Hachette, en fait, c'était Hachette Gallimard. Donc, il a publié La forteresse de coton, qui est quand même pratiquement mon premier roman. Et en même temps, après, quand j'ai voulu publier Cette chère humanité et tous les autres romans sur l'Europe qui auraient très bien pu rentrer chez Gallimard, j'ai toutes les lettres de Gaston, de Claude, d'Antoine, refusant toujours mes romans en disant il y a des collections pour ça, comme on vous dirait aller au GOG.
Il y a des toilettes pour ça.
Donc ça a toujours été impossible, et il faut bien dire que le fait d'avoir rencontré à travers les limites du son Mathias, j'ai vu que là il y avait une possibilité de faire des livres qui soient franchement différents. C'est-à-dire aboutir absolument à faire ce que je voulais et qu'il soit publié dans une maison d'édition qui ne ressemble pas aux autres. En ce sens que ce qu'il y a d'intéressant, bon, il y a des auteurs que j'aime chez à la Volte, d'autres que j'aime moins, mais enfin, de toute façon, il y a une cohésion, en ce sens que c'est une maison d'édition qui cherche à apporter un univers différent au lecteur. Il y a une espèce de cohésion interne qui est dans la tête du personnage principal et que personne ne peut véritablement définir, mais c'est ça qui est important. Donc j'ai été ravi de pouvoir collaborer à ce propos. Donc j'avais quand même un recueil de nouvelles que je peaufinais depuis 1998 qui était entièrement basé sur la mort. C'est-à-dire c'était une façon assez particulière de l'aborder, en ce sens que j'essayais de montrer toutes les facettes possibles, il y en a d'autres évidemment, de la mort à travers un récit autobiographique. Alors, c'est un récit autobiographique des fois biaisé, parce que c'est quelqu'un qui raconte à la première personne la mort de quelqu'un d'autre, mais enfin, de toute façon, c'est toujours à la première personne, et c'était toujours basé sur des collages que je fais depuis toujours. Bon, et vrai, je regrette quand même que, malgré pour des moyens...
Que ce soit pas en couleur.
Ça ne soit pas en couleur, parce que c'est ouais. Ces collages ont perdu énormément en même temps. Mais en même temps, il y avait une espèce de cohésion. Donc, comme il y a la musique qui illustre, ou tout au moins qui accompagne les livres, comme il a toujours été dans toutes les histoires de la publication éditoriale des artistes qui accompagnaient les auteurs avec des peintures ou des gravures qui essayaient de faire un écho au livre qui a été publié, la musique était aussi une possibilité. Voilà, c'était le fait de créer d'abord une image, et à partir de cette image, essayer de trouver une nouvelle qui la décrive et qui la compose. Malheureusement, je n'y suis jamais parvenu. Finalement, c'est un peu comme la musique et la littérature. On ne peut pas arriver à synthétiser les deux, ça peut simplement être en parallèle. Donc j'ai poursuivi pendant des années cet essai sur ces nouvelles sur la mort.
Quand Philippe parle de collage, c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire des collages artistiques, visuels, qui sont très beaux d'ailleurs, enfin, on fait une exposition.
Oui, mais,
voilà, donc c'est vraiment cet écho entre les deux.
Voilà, c'est une espèce de nouvelle visuelle, c'est-à-dire c'est essayer de photographier l'impossible. J'avais commencé il y a très longtemps à faire des collages, enfin bien avant encore, mais bon, j'en ai fait pour fiction dans les une vingtaine de numéros. Donc c'était pour accompagner, illustrer les nouvelles. Là, le Prosou était le contraire, c'est-à-dire je faisais à partir de photos personnelles, d'emprunts dans les illustrations, etc., de les recomposer. Et surtout, j'avais trouvé, grâce à Photoshop, le moyen, enfin, de reconstituer une image dans laquelle on ne puisse pas dire « Non, ça n'est pas visuellement impossible, c'est visuellement impensable. » Voilà. Et à partir de là, c'est là que j'ai réussi à faire ce recueil. Alors, ce recueil a été plus ou moins bien accepté. J'ai eu un article absolument, une descente en flamme dans le Bélial, et au contraire, d'autres articles ont fait une description absolument superbe de cet ensemble. Le tout, c'est d'avoir réussi à approfondir, à travers ces 10 nouvelles, je crois, toutes les facettes possibles de la mort dans un monde tout à fait intérieur à la science-fiction, tout en étant quand même borderline, c'est-à-dire un mi-chemin entre littérature générale, fantastique et science-fiction.
Si, voilà tu acceptes de parler de certaines références, mais quand on lit ce recueil, il y a un aspect fantastique, il y a du fantastique, il y a du surréalisme, il y a toujours ton lien avec le surréalisme, voilà. Aussi, hein, c'est beaucoup moins, enfin si on doit le classer, c'est beaucoup moins science-fiction dans ce recueil que d'autres œuvres que tu as proposées.
Bien que quand même, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire une revue numérique qui s'appelle Res Futuré, dans lequel il y a au moins 150 pages sur ce que j'ai pu écrire, et dans lequel justement on montre que je ne suis pas du tout surréaliste.
Parce que, bon, on ne va pas en parler là, vous le lirez dans le recueil d'entretien où les auteurs sont mis à nu par Richard Combalot, comme je l'ai dit, mais où vous avez une histoire de la science-fiction une histoire par Philippe Curval, ça remonte à plus loin que quand on sait Jacques, une histoire du démarrage, c'est une histoire de la littérature. Et on voit le lien que tu avais avec les surréalistes. Voilà, que tu puisses avoir des liens, ça ne veut pas dire que tu écrives des œuvres surréalistes.
C'est-à-dire qu'on est parti d'une époque où certains dictateurs avaient décidé que s'il n'y avait pas de science dans la science-fiction, elle n'était pas publiable. Donc, personnellement, depuis le début, je pensais que la science avait quand même un champ spéculatif plus grand et qu'il pouvait justement atteindre la fiction en devenant fiction même. C'est-à-dire que c'était plutôt de la fiction-science que de la science-fiction. Donc, voilà comment on peut expliquer les choses. Et c'est un peu toujours ce que j'ai voulu écrire. C'est-à-dire, d'ailleurs, à une époque où les grands dictateurs décrétaient qu'il ne publiait que des livres dans lesquels il y avait la science qui apportait sa nourriture à la fiction, il publiait en même temps des livres qui, si on les analyse aujourd'hui, dans lesquels il n'y a pas un atome de science. Et ça, sais que ça a pu arriver.
Tu parles beaucoup de littérature de spéculation, quoi. Au début, j'ai commencé en disant qu'on ne parlait pas de genre ni d'étiquette, et on est toujours en train de... Bon, c'est aussi, pour moi, c'est aussi le contexte qui amène à en parler, mais on est évidemment toujours confronté à des questions de repères, si ce ne sont pas des étiquettes.
Non, d'ailleurs, je pense que justement, la Volte est une maison d'édition spéculative. Voilà, c'est ça.
On va dire ça. en fait, ça file très vite. Je voudrais qu'on parle un petit peu de Juste à temps. Ensuite, peut-être parler d'autres auteurs de la Volte, c'est beaucoup déjà, des questions-réponses, et parler des projets. Voilà le programme sur le quart d'heure qui reste.
Bien alors, Juste à temps, ça a été donc après ce recueil de nouvelles qui s'appelait au départ...
Ah oui, j'ai changé... Oui, voilà. On a changé... Oui,
ça s'appelait Journaux Ultimes, voilà. C'est-à-dire donc c'était... des journaux de la fin, et donc on a pris le titre d'une des nouvelles qui s'appelle L'homme qui s'arrêta.
C'est beau, L'homme qui s'arrêta. et en dessous, il y a marqué Journaux ultimes. On a gardé.
Donc, Juste à temps, c'était un projet aussi, justement, qui, à mon avis, devait s'adapter à la Volte, puisque c'est un roman qui est à la fois qu'on pourrait traiter de régionaliste, puisque ça se passe exclusivement autour de la baie de Somme. Et à partir de là, j'ai voulu montrer comment, à partir d'un lieu, pouvait s'établir un espèce d'univers qui allait dans toutes les directions du temps. Puisque autour de cette baie sur laquelle se dégage 17 km de mer et qui revient et qui arrive à vos pieds toutes les 12 heures, il y avait aussi dans mon roman la possibilité qu'il se greffe à partir d'un minuscule point noir. J'avais lu des articles à ce sujet, je m'étais fortement documenté sur le sujet. Il y a des minuscules points noirs de la taille d'un pois qui peuvent totalement perturber l'univers. Et donc, il s'était approché de la Terre à minuscule point noir, et à partir de là, un minuscule trou noir, et à partir de là, s'étaient établies des marées du temps. C'est-à-dire que le temps, en même temps que les marées avançaient, le temps reculait et repartait vers l'avenir. Et mon personnage principal, donc, est pris dans ces vagues de temps et va remonter jusqu'au début du XXe siècle. Plusieurs fois, quelqu'un l'a souligné, j'ai fait des erreurs en mettant 19e siècle, c'est bien le 20e, et va aussi jusqu'au 22e siècle dans un deuxième temps. Tout ça, c'était d'abord pour montrer la baie, pour montrer la beauté de cet endroit spectaculaire dans lequel Jules Verne a écrit 20 milieux sous les mers, et dans lequel je parle beaucoup justement de la façon dont il l'a écrite, et dont il a eu recours à des maquettes qu'il a mis dans la baie avec des petits sous-marins en bois, etc. Et en même temps, ses amis qui ont été retrouvés dans les écoles d'Abbeville, des souvenirs, rapports avec l'invention technologique. Et surtout, le fait que c'est un endroit que tout le monde a oublié parce qu'il s'est passé au début du XXe siècle des frères qui étaient des fermiers qui avaient été éblouis en 1906 par l'avion des frères Wright et qui ont établi dans cet endroit absolument impossible qui s'appelle le Crotoy. Je ne sais pas si vous avez déjà été, c'est vraiment le bout du monde.
C'est magnifique, c'est vrai.
Et qui a fait des avions. Ils s'appelaient Caudron, ils étaient deux frères et ils ont envahi le monde avec des avions. Ils en ont vendu en Chine, ils en ont vendu en Angleterre, ils en ont vendu aux États-Unis, ils en ont vendu partout. Ils ont créé la plus grande école de pilotage qui ait jamais existé au début du XXe siècle. Ils ont formé 1500 pilotes, dont des pilotes américains, des pilotes chinois, des pilotes... C'est une histoire... Enfin, c'est vraiment la naissance de la technologie. Donc j'ai voulu montrer que la science-fiction est aussi basée sur la naissance de la technologie à la fin du XIXe, au début du XXe. Donc ça, c'est une grande partie du roman. Par ailleurs, il y a aussi toute une histoire policière autour d'un héritage sur des tableaux de maîtres du XXe siècle, Miro, Picasso, etc. Et en même temps, du fait qu'il y a une femme qui vient du futur et qui peut raconter comment va se transformer la baie. Parce que justement, bon, il y a cette question du réchauffement planétaire, c'est aussi ce qui m'a préoccupé. Et j'ai voulu montrer cette baie qui, jusqu'à présent, ne présente aucun caractéristique particulier par rapport à la montée des eaux, qui au contraire ne fait que reculer puisque le sable monte et que la baie et que l'eau, que le niveau de l'eau est de plus en plus bas. Donc j'ai voulu montrer comment dans une centaine d'années, un siècle, la baie peut se transformer, comment les villages autour transforment, et même je vais plus loin après, quand le personnage va dans un avenir extrêmement lointain, emporté par la femme qu'il a aimée. S'il y a un double amour, un amour aussi, j'ai voulu faire un roman sentimental, c'est de la science-fiction sentimentale, dans lequel le personnage va rencontrer une femme dans le passé, qui est une amie des frères Caudron, et il va rencontrer une femme inconnue dans la baie, qui va trouver par une trace de sang que son pied a laissé sur un coquillage, et il va partir avec elle dans le futur, à la suite d'aventures extrêmement compliquées. Et j'ai été jusqu'à la fin du monde.
Tout à fait. Voilà. Le personnage principal, pour moi, c'est la bête somme. Et c'est vrai que c'est magnifique. On n'est pas obligé de la... Quand on la connaît, c'est encore mieux. Quand on ne la connaît pas, on la découvre. Et c'est vrai que c'est le passé, le présent et le futur de la bête somme. Et bon, voilà, ça, c'est magnifique. Et évidemment... Et quelque part, lors d'une soirée, effectivement, je me suis excité, j'ai dit que c'était de la science-fiction régionaliste. Hein, on est toujours avec des étiquettes, finalement, tout en disant qu'on n'en veut pas. Hein. Et c'était aussi parce que j'essayais de convaincre les libraires de la région de le lire, parce qu'il y a ceux qui disent « Ah non, moi, la science-fiction, vous savez, bah, on doit en connaître. Non, moi, la science-fiction. Et au moins, je sais pas, par rapport à ce lieu, bon, ça n'a pas marché, ils ne sont pas intéressés, eux particulièrement, ça reste les lecteurs de science-fiction et de Philippe qui nous suivent, je reviens pas. Et donc, quand on a parlé de science-fiction régionaliste, ça s'est prolongé par une autre soirée où on s'est dit, eh ben, si on faisait un recueil de science-fiction régionaliste. Ça, c'est moi. Là, c'est le fondateur qui parle. Moi, j'ai le concept, d'accord. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. On a dit que ce serait de la science-fiction régionaliste. Et après, c'est aux auteurs de se débrouiller. C'est quand même bien. Et alors, il y en a. C'était la première soirée, c'était avec David Calvo et Stéphane Beauverger. Et quand on en a parlé dans une autre soirée à Léo Henry et Philippe Curval, après, ils ne me lâchaient pas avec cette idée qui était juste une idée comme ça. Et on a décidé de lancer ça. Et c'est ce qui a donné le recueil qui est sorti en octobre. Enfin, je vois qu'il y a toutes les couves, mais je n'arrive pas à me synchroniser, à regarder en même temps. Donc, il s'appelle « Faites demi-tour des que possibles ». Voilà. On a demandé... on a demandé finalement aux auteurs d'écrire une nouvelle et leur interprétation de ce que ça pouvait être de la science-fiction régionaliste. Ça passe là. Ah oui, c'était ça. Je trouve très, très, très... Oui, régional, pas régionaliste, c'est vrai, exact. Pas régionaliste, régional. Il y avait une contrainte optionnelle, certains l'ont acceptée, qui était... D'autres ont... Ouais, voilà, l'ont pas fait, tout à fait. Puisque c'était mettre une marque dans un magasin, une chaîne de magasins propre à la région et qui avait de préférence disparu. Voyez. Donc comme ça venait de Calvo et Beauverger, eux ils l'ont fait. Alors Calvo, ça se passe carrément, il donne la vérité sur Marseille. Hein. C'est Marseille, il explique, comme ça me permet de parler un peu de Calvo, il explique pourquoi ça pue et pourquoi ça bouge pas. Il est marseillais, hein, sinon il a le droit. Tout se passe dans la foire fouille. Et il se passe des choses où personne ne peut imaginer ce qui se passe là-dedans.
C'est une nouvelle totalement hallucinante.
Mais il ne faut pas la raconter, là.
La vision de Marseille, là, c'est extraordinaire. Ouais.
Mais vous avez la vérité, la vérité. Et donc, on fait une sorte de tour de France avec les îles aussi. Chacun y apportant sa patte. Et puis, dans certains cas, des nouvelles d'auteurs qu'on connaît moins, il y a tous les auteurs de la Volte, et il y en a d'autres. Et certains ont même été, par exemple, par Stéphane Beauverger, a fait un travail incroyable avec au moins deux auteurs, où finalement, il a fait, j'ai pas fait mon boulot, où c'est Stéphane qui les a vraiment amenés à améliorer, à travailler leurs textes, leurs idées. Et ça a amené ça les a amenés à un niveau quasiment au même niveau que les autres. Non, il n'y a pas d'histoire de niveau, mais ça fait de très bonnes nouvelles. Voilà. Ce que je vous propose, c'est plutôt d'écouter vos questions. Et puis, comme je n'ai pas parlé de tous les auteurs, c'est à vous de nous suggérer. Si vous voulez qu'on parle d'un auteur particulièrement ou d'une œuvre, ou en parler vous-même, ce sera très sympathique. Oui. Il parle.
Peut-être en dire deux mots.
En parler. Oui, c'est vrai. J'avais décidé de ne pas en parler parce qu'il n'est pas là. Mais non. Donc Stéphane Beauverger, juste pour la toute petite histoire éditoriale, c'est qu'en fait, il a, et on le lit dans son recueil d'entretien, il y a une histoire presque parallèle à La Volte, c'est-à-dire que en fait, il a fait son premier roman avec une petite association, avec des gens près de lui qui ont créé une association, rien que pour publier Chromosome. Donc il y a une édition rare, illustrée de Chromosome, je vois que certains le savent. Oui, je sais, Escogriffe, l'association Escogriffe. Et La Volte les a rachetés. Non. Mais j'ai récupéré des gens qui étaient dans cette petite association dans La Volte. Donc, ils ont apporté. Donc, c'est devenu. Il y a par exemple Stéphanie Aparicio qui est la créateur directive de La Volte. C'est elle qui fait les maquettes souvent et les couvertures. Créateur directive, c'est son titre, c'est comme ça. Et c'est anglais. Et donc elle avait travaillé avec les Escogriffes. Il y a Corinne Billon qui fait beaucoup d'illustrations, qui fait toutes les illustrations de couverture de Beauverger, de Jeff Noon, de Evangelisti, notamment. Et voilà. Donc les Escogriffes, il y a une petite maison, il y a eu Chromosome dans une édition très limitée. Et puis après, je les ai rencontrés au lancement, et puis et on a lancé nous-mêmes Chromosome, qui est une trilogie. Alors des fois on dit triptyque pour vous en inciter à les acheter dans le désordre. Il y a quand même un ordre, et effectivement, on est dans un univers alors breton, mais déraciné aussi, c'est-à-dire qu'il y a des Rastafari qui ont notamment envahi la Bretagne, il y a des ethnies, c'est très dur l'univers de Stéphane, parfois très noir, il cherche l'espoir, il nous plombe pas complètement tous nos espoirs, mais il y a vraiment ça, avec un côté violence, enfin voilà. Et là, il y a un virus qui a tout fait sauter, mais on n'est pas dans... Quand je dis ça, on pourrait croire qu'on est dans un récit de science-fiction classique, le virus. C'est un virus à la fois qui a mis par terre tout ce qui était réseau de communication, nouvelles technologies, mais qui a également fait muter les gens. Hein? Et cette violence qui les prend, il y a plus de... Enfin, ça casse tout ce qui est relations sociales, enfin voilà. Et il a surtout une imagination incroyable et il est très très fort en scénario, donc ça tient vraiment. Et donc on voit un moment ou deux, un prophète qui commence à s'élever et sauver tout le monde. Enfin, et donc on est happé par ce qu'il écrit. Là aussi il y a des illustrations à l'intérieur par Corinne. Et puis il a eu tous les prix de science-fiction, pas tous presque, avec le Déchronologue. Donc ça, j'espère aussi que beaucoup parmi vous l'ont lu. Et le Déchronologue, c'est un récit de pirate. Enfin, c'est pour le vendre le mieux pour ceux qui ont aimé Pirates des Caraïbes. Je dis ça, tant pis pour lui, il n'est pas là. Hein. Parce qu'il a vraiment travaillé, sur ce qu'était la piraterie avant la période de Pirates des Caraïbes, c'est vraiment le début. Donc c'est au contraire la pauvreté extrême. C'est quasiment l'asservissement des jeunes qui sont envoyés, qui sont captés, raptés quasiment par les capitaines sur des navires et qui voilà, ils sont désespérés. C'est voilà. Et là il y a une vraie histoire d'amour. Bon et surtout il est parti d'une idée. C'est un vaisseau qui tire du temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait mis aussi? Je crois qu'en quatrième on avait mis 390 000 tonnes de diplomatie. Il a déchronologisé les séquences, c'est-à-dire que vous avez démarré du temps et que ce capitaine Villon qui boit sa part de alors c'est pas du raffia, de raffia
ratafia
pas du ratafia justement non ni du raffia en fait non mais c'est oui non c'est moi qui me trompe, c'est il a vraiment retrouvé le nom exact à l'époque parce qu'il y avait sinon un néologisme. Et donc ce capitaine est confronté à des objets qui viennent du futur et vous avez les chapitres qui sont pas au même qui se situent pas sur la même temporalité et bon évidemment c'est construit de manière à ce qu'on découvre et qu'on apprenne juste ce qu'il faut pour avancer dans l'histoire et c'est pas fait pour compliquer mais c'est au contraire ça apporte un sel incroyable sur ce qui arrive à ce navire, ce capitaine Villon. Voilà, Stéphane nous prépare un prochain roman. Il est très occupé, je suppose c'est pour ça qu'il n'est pas venu, parce qu'il a accepté des boulots à droite à gauche de scénarios, de jeux ou de BD. Et c'est ce qui réunit, une partie des gens de la Volt, où on voit qu'ils travaillent les uns avec les autres sur des projets alors, de jeux ou d'univers, de création d'univers. Ça concerne davantage, plutôt que Jacques et Philippe, ça concerne davantage les autres, Léo Henry, David Calvo, Alain Damasio, Stéphane Beauverger, j'en oublie un, non c'est tout, où ils se mettent ensemble sur des projets de films, c'était le projet de film de l'art du contrevent, qui ne verra pas le jour, a priori, des jeux vidéo et tout ça, donc il y a un échange sur les créations d'univers au-delà de leur propre écriture. Voilà, j'ai répondu longuement à la question. Oui.
Pour moi, la Volte, c'était vraiment des auteurs français. Comment est-ce que, dans quelles circonstances, on est arrivé à élargir évangélistique, on a vu il y a quand même quelques années, la Métamorphose, mais Jeff Moon, moi j'ai lu les premiers, c'est pas il y a 15 ans.
C'est ça, c'est un moment. quand, ouais, je vais le dire. Ouais. Quand on retrouve Jacques Chambon, d'ailleurs, c'est vrai, sur Jeff Noon, en fait, qui avait publié Flammarion, mais je le copie pas, je c'est pas fait exprès d'ailleurs. Et puis peu importe, ce sera très bien aussi. Moi, j'avais adoré le Wurt sorti chez Flammarion. Il y avait eu aussi Alice Automate, mais le Wurt qui était sorti chez Flammarion. Et puis à un moment, je me suis dit, mais. Donc quand je suis sorti de la Horde du Contre-Ange, je me dis, qu'est-ce que je vais publier? J'avais des envies, mais comment, par quel bout on le prend et tout. C'est génial, je me suis dit, mais j'adore Jeff Noon, et avec un ami qui a été le traducteur pendant deux volumes, on a trouvé la trace de Jeff Noon et on allait le voir, et on a pris les droits de Jeff Noon. C'est juste du plaisir pur. Bon, enfin, la question de français, tout ça, je ne me la suis pas posée, c'est juste j'adore Jeff Noon, alors on publie Jeff Noon. Voilà, c'est ça le pied à terre. Evangelisti, pareil. Evangelisti, j'embêtais mes camarades, les autres maisons d'édition, à dire, mais pourquoi vous... Le cycle s'était terminé au 5 ou 6, alors qu'il comprend 10 volumes. Evangelisti, le cycle de Nicolas Emmerich. Et puis un jour, il y a un éditeur, un de mes copains éditeurs, qui me dit peut-être le Bélier, et qui me dit, mais pourquoi pas toi? Et j'y avais pas du tout pensé, en fait. Et c'est une folie de sortir 10 bouquins, on sort. Donc Jacques a publié... traduit les deux derniers. Il y a le dixième qui sort, le dernier volume, ouais, qui sort l'année prochaine. Voilà, c'est pas une stratégie en tout cas, évidemment, c'est des rencontres, c'est des coups de cœur. Et comme je lis pas d'autres langues, de toute manière, enfin je ne lis que l'anglais, et Evangelisti, je l'avais lu en français, bah ça limite un peu aussi. Enfin, ça va, on a de quoi faire. J'ai pas parlé de Jeff Noon, hein. Enfin, évidemment, j'ai envie de parler de tous les livres, on peut en parler ailleurs, au stand, ou voilà, il y a sur le site. Aussi des commentaires. Il y a eu un article là très récemment, une chronique sur un blog de quelqu'un qu'on aime bien qui a fait un article sur le dernier de Jeff Noon qui s'appelle Intrabasse. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un qui adore et qui a le même choc que soi à la lecture d'un livre. Voilà. Bon voilà, David Calvo, il avait publié à droite à gauche. C'est un feu follet, je ne sais pas comment on peut dire, un lutin. Il veut se renouveler tout le temps, il ne veut jamais écrire la même chose. Donc voilà, je pense qu'on est bien pour accueillir un David Calvo qui s'éclate. Là, il écrit sur, a priori, il écrit sur, donc ça se passe dans l'immeuble Corbusier à Marseille. Et la maison du Fada, voilà. Et donc ça se passe là, il y habite régulièrement, après avoir habité chez moi. Et il vient de partir au Québec en 3 mois, parce qu'il était pour du jeu vidéo, pour Ankama. Et c'est un créateur d'univers, lui aussi, David Calvo. Et donc, voilà, il y a enterré quelque chose dans l'immeuble Corbusier, et il ne sait pas encore quoi, mais il y travaille. Et voilà, quand il parle du livre, voilà. Moi j'attends de lire le. Oui, juste comme ça, pour le détail éditorial, moi je préfère lire le livre en entier et pas au fur et à mesure. Voilà, après, peut-être qu'un jour ça se présentera autrement, mais David, déjà. Il écrit, il donne son manuscrit, puis après on verra. Et Elliot Dunéant qui nous a remis, il m'en avait parlé, et à chaque fois qu'il m'en parlait, c'était la même chose, et c'était pas du tout la même chose. Elliot Dunéant, c'est très drôle, c'est un vieux d'un hospice qu'on a un peu oublié, qui a disparu dans une pièce fermée. Il a disparu dans un angle.
Ouais.
Après, il faut juste aller le chercher.
Ouais, il va chercher.
Voilà, et il est dans le néant.
Il est dans le néant. Le néant a beaucoup de valeur.
Oui, il m'a expliqué, David, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, tu vois, moi dans la BD, ce qui m'intéresse, c'est entre les cases. Mais il peut vous l'expliquer beaucoup mieux que moi. Hein. Moi, je sais les caricaturer, mais, mais c'est ça. Lui, ce qui m'intéresse, c'est entre les cases. Voilà. Vous aviez une question ?
C'était simplement le nom de la maison d'édition. Est-ce que c'est bien la danse de la Renaissance assez licencieuse, ou est-ce que, pourquoi ? Si c'est le cas.
Eh bien, non. C'est tout et voilà. C'est là. Alors d'abord, c'est comme pour les prénoms hein, d'un enfant. On a eu 300. On a hésité entre 300 noms et en fait, d'abord pour moi et avant tout, la Volte, c'est dans la zone du dehors d'Alain Damasio. Voilà. Et bon voilà. Donc la Volte est un mouvement politique dans le livre de la zone du dehors. Nous, si pour ceux qui ont lu la zone, parfois, il y en a qui viennent nous voir parce qu'on fait une soirée tous les mois à Paris, c'est ouvert, bien qui veut, on a fait des rencontres incroyables. Et il y en a qui viennent parce que c'est des purs et durs, c'est des fans de la zone du dehors. Il y a ceux qui sont fans de la Horde et ceux qui sont fans de la zone. je parle dans les Damasiesques, hein, il y a un ado. Et Damasio, c'est très, la zone, c'est très politique. Et donc ils viennent, ils pensent que voilà, on est de la Volte, on est des Voltés comme dans la zone du dehors. Et je leur dis, pour ceux qui ont lu, c'est plutôt la Molte. Mais bon, je suis désolé, c'est la Volte est un mouvement de résistance très fort dans la zone du dehors. Et qui se veut un mouvement avant tout, et pas la révolte qui est figée pour lui. Voilà. Nous, par rapport, bon, le tribut à Alain Damasio, la Volte, ça déjà, et de l'autre côté, j'aime bien l'idée de mouvement, qui est aussi une Volte en équitation. Donc c'est, voilà, ce qu'on a retenu, c'est le côté mouvement, avec, avec cette référence à la zone du dehors. Voilà. Amicalement Volte, c'est ce que je signe des fois dans les mails. Maintenant, quand on discute et quand on fait des tables rondes tous ensemble, oui, on peut dire que dans tout ce qu'écrivent Jacques, Alain et les autres, il y a un vrai côté critique de la société, résistance, il y a un petit côté combat, sans... voilà. Certains avec un grand C, d'autres avec un petit C. C'est...
Mais ça n'est pas la solution politique.
Non, voilà, toujours dans les étiquettes. De... Mais oui, ça, c'est un autre sujet en plus. Mais il y a ce côté-là, ouais, il y a ce côté au réel où par effectivement l'imagination et par des mondes qu'on ne vit pas aujourd'hui. Vous n'avez pas de questions ?
Oui. J'ai vu une couverture, la souriez, vous êtes géré.
Oui.
Je ne connais pas du tout.
Souriez, vous êtes géré. On a fait un. C'est assez Damasio aussi, au départ, c'était une de ses phrases, je crois qu'on a changé le titre, c'est pas le vrai titre, enfin on a fait une couverture invisible en librairie, mais ça me fait beaucoup rire, il n'y a rien dessus, en fait, et c'est parti, c'était un recueil fait avec la Ligue des Droits de l'Homme, ils n'ont rien fait, mais c'était bien de dire qu'on a fait avec la Ligue des Droits de l'Homme, c'était effectivement là, pour le coup, un côté critique des nouvelles technologies, mais pas anti-nouvelles technologies, c'est... un peu bêtassou quand même, voilà, c'est un recueil de nouvelles dont le thème est le thème précisément c'était le rapport aux nouvelles technologies. Voilà, on n'est pas allé plus loin.
Non.
Ouais.
Ce qui était extraordinaire,
ça, c'est que... t'en as fait une dedans. Ouais. Ouais. C'est drôle, la tienne, elle est très drôle.
Les
très méchante, elle est très drôle. Ah, oui.
On imaginait quand on y a été que les droits de l'homme, c'était vraiment une magnifique entreprise puissante et vaillante. On est arrivé le jour de l'apparition de ce recueil dans un petit endroit misérable où il y avait quelques chips à manger. Et vraiment, les droits de l'homme, c'est très peu de choses.
Voilà, mais ça, il critique sa nouvelle. Et ça, c'est évidemment les auteurs, comme j'aime. C'est-à-dire, évidemment, Philippe, lui, a fait une nouvelle où il critiquait très clairement. Il faisait de la Ligue des droits de l'homme quelque chose qu'elle n'est pas encore. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voulait vivre sans connexion, ou ça, pas dans le Larzac, mais une sorte qui se retire du monde et qui vit sans connexion. Et en fait, il est arrêté, emprisonné, je vous donne toute l'histoire, par la Ligue des droits de l'homme parce qu'il n'a pas utilisé son droit à être connecté. Voilà. Ça se finit mal, quoi. Voilà pour... Donc on a fait quelques recueils de nouvelles, aux limites du son, on vient d'en parler, on a fait sur les nouvelles régionales, on a fait sur donc les nouvelles technologies, et on a fait sur la schizophrénie aussi. C'est une autre couverture où il n'y a pas de titre, normalement tu aussi, sinon c'est pas drôle. Je pense que tous les deux ans on va faire comme ça un recueil avec un thème. J'hésite entre la dernière fois, c'était, ça vous n'êtes pas encore au courant, c'est soit la pornographie, soit le burn-out. Ça peut encore évoluer.
Hein. Ouais.
Les deux, ouais, les burn-out. Ouais, c'est une bonne idée. Burn-out. Ça s'appellera burn-out. J'ai l'idée du titre. Vous avez une question ? Oui, je crois. Inspiré, c'est-à-dire que nous on va au-delà des concerts qu'on a fait autour des livres et des BO. Là ça me fait penser à quelque chose qui est c'est drôle, il y a eu une couverture dans Libé récemment sur quelqu'un qui s'appelle Rhône ou R, un très grand R-O-N-E, je vois qu'il y en a qui hochent du chef, donc voilà. Bah oui, pour certains il est très connu, pour d'autres pas du tout. Donc Rhône est un artiste électro hyper connu des gens qui le connaissent. Quand il fait des concerts, juste c'est blindé, c'était c'était la vedette des transmusicales de Rennes, hein, il y a deux semaines ou il y a une semaine. Et Rhône, est un fan d'Alain Damasio depuis le début. D'ailleurs, il avait fait le premier DVD, on a fait un DVD avec la première édition de La Zone du Dehors, et il y avait Erwan Castex, et il s'appelle Erwan en fait. C'est devenu Rhône, mais parce que les gens le lisent mal. Erwan est un fan d'Alain, il avait fait la musique de ce DVD, il faudra trouver le DVD, on l'a plus. Et il a fait ses textes, il a fait un texte avec la voix d'Alain qui s'appelle Bora, je crois, c'est ça, et on entend Alain Damasio qui est sur une musique de Rhône. Et je crois qu'Alain vient d'écrire pour son prochain album tous ses textes. C'est ça? Voilà. Vous pensez à ça ou c'est juste une question par curiosité? Voilà. Je vous invite, je n'en demande qu'à parler des livres et à ce que les auteurs voient des gens venir discuter avec eux et acheter des livres, bien sûr, c'est aussi l'objectif. On vous remercie chaudement et évidemment, tant pis pour les auteurs dont on n'a pas pu parler, ce sera une autre occasion. Voilà. Et on passe et on a une heure et demie sur Mauvais Gens ce soir et ce sera Léo Henry. On tourne comme ça, on fait tourner. Et après, ça sera la fin de l'année des 10 ans et on se retrouve dans 10 ans. Merci.
L'arbre, la conclusion,
ça vient naturellement, c'est pas possible. C'était donner rendez-vous dans 10 ans. T'es.